Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un nouveau rebondissement, encore un dans le feuilleton Djokovic, des masques FFP2 à l'école et puis EDF qui dégringole en bourse.
À 12h40, nos deux débats du jour. Le harcèlement en ligne, c'est l'un des combats de Brigitte Macron, que vous avez entendu ce matin sur RTL avec Alba Ventura. Elle était l'invitée de RTL. Elle est bien sûr revenue sur l'éventuelle candidature de son mari. A-t-elle envie de rester 5 ans de plus à l'Élysée? Voilà une partie de sa réponse.
Je lui ai demandé de ne pas me le demander.
Comment interpréter cette petite phrase?
Cette
on verra
phrase,
ça.
C'est une énigme.
Dès 12h50, la question du jour sur RTL.fr, elle concerne les réseaux sociaux. Avez-vous déjà été victime de harcèlement en ligne? Vous dites oui à 14%, non à 73%. Notre météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Grand beau temps, mais alors qu'est-ce qui fait froid? Moi j'ai deux pulls.
Oui, non, alors c'est vrai que les températures sont franchement basses et elles vont mettre du temps à monter. Et en plus, ça ne durera pas très très longtemps. Température maximale atteinte vers 16h et à 16h30, pouf, on commence à redescendre. Alors on a un temps ensoleillé parti, sauf que des brouillards coriaces par endroits vont persister une grande partie de l'après-midi. C'est le cas à Nantes, à Rennes, à Angers, à Orléans, à Mâcon ou encore à Bordeaux. Pour les autres, un grand soleil et des températures qui iront de 3 degrés à Strasbourg à 16 degrés à Bastia, comptez 6 à Paris, à Grenoble, à Rouen, à Montauban, il fait pour l'instant moins 4 et donc à 16h, il fera 8 degrés. Faut attendre.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc, direction l'Australie et ce nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Novak Djokovic aux autorités. Son visa a été annulé ce matin. Il n'a pas pour autant été expulsé, en tout cas pas encore, Jean-Michel Rascol.
Oui, le juge Anthony Kelly, qui avait débloqué l'affaire mercredi permettant à Djokovic de rester sur le territoire, est à nouveau au centre de l'affaire. Les débats en visioconférence lui ont permis d'échanger avec les avocats du Serbe qui ont versé de nouveaux éléments au dossier. Il conteste, vous allez les entendre, les arguments avancés ce matin par Alex Hawkes, le ministre de l'immigration.
Ce que le ministère de l'immigration sous-entend, c'est que la présence de Novak Djokovic sur le territoire australien fait augmenter le sentiment anti-vax dans la population et qu'il cause un risque pour tout le monde. Ça nous apparaît complètement irrationnel.
Une nouvelle réunion avec les services de l'immigration est fixée ce samedi à 8h à Melbourne, soit 22h ce soir, heure française. Novak Djokovic, même avec un visa annulé, n'est pas placé en détention. Il réside dans la maison que son entourage a louée dans la banlieue de Melbourne.
Et l'Open d'Australie, lui, débute lundi et on ne sait toujours pas si Djokovic sera bien sur le terrain.
Pour l'instant, une certitude, le numéro 1 mondial figure toujours dans le tableau. Si son expulsion intervient avant dimanche 18h et la diffusion du programme de la première journée, eh bien, il sera modifié. Modifications qui toucheront les têtes de série, dont Gaël Monfils. Si elle intervient après, Djokovic sera remplacé par un lucky loser, un joueur éliminé lors des qualifications. Le malheur des uns
fait parfois le bonheur des autres.
Exactement.
Merci beaucoup Jean-Michel. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL.
Le protocole sanitaire à présent, celui qui est mis en place à l'école et après la grève d'hier, le gouvernement a donc promis hier soir des masques FFP2.
Au moins pour les enseignants de maternelle dans la banlieue de Strasbourg. Le maire d'Ilkirch Grafenstaden a décidé de prendre les devants, Yannick Collant.
Oui, pour la première fois ce matin, Francis Berger, le directeur de l'école du centre, a pu distribuer un masque FFP2 à tous les professeurs.
Donc on a eu ce modèle-là, donc le FFP2 classique. Ça a été une bonne surprise. On a quand même constaté qu'Omicron était beaucoup plus contagieux que Delta. Donc le FFP2 joue forcément un rôle plus sécurisant qu'un masque chirurgical. Il faut parler un peu plus fort. Il faut articuler un petit peu plus, mais bon, à un moment, il faut faire des choix. La santé est peut-être le choix prioritaire.
Des masques FFP2 fournis à tous les enseignants, quelle que soit leur classe, et à tous les agents de la ville qui travaillent dans les écoles. Thibaut Philips, le maire d'Ilkirch Grafenstaden, a préféré anticiper.
Ça fait à peu près 10 000 masques qui sont distribués chaque mois, mais je pense que c'est une dépense nécessaire et utile, parce que j'ai eu beaucoup de retours d'enseignants, notamment de maternelle, qui s'inquiétaient de ne pas avoir des masques assez protecteurs face à des élèves qui n'étaient pas forcément masqués.
En tout cas, c'est un soulagement pour pour les enseignants et les agents municipaux que j'ai pu rencontrer. Ils étaient jusque-là nombreux à s'acheter eux-mêmes des masques FFP2 pour venir en classe.
Reportage en Alsace signé Yannick Holland. Les syndicats d'enseignants doivent se retrouver cet après-midi à 17h pour évoquer la suite du mouvement. Des syndicats plutôt satisfaits d'avoir obtenu des avancées hier, le changement de méthode de communication, notamment du gouvernement, Marie Guerrier.
Oui, le gouvernement a pris le temps de l'écoute. 3 heures de réunion hier soir, la présence du Premier ministre et l'entrée en jeu du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a donné de nombreux détails sur la situation sanitaire et le pourquoi du dépistage actuel. Désormais, le gouvernement promet qu'il y aura 2 réunions par mois au niveau national avec les syndicats, le ministère de l'Éducation et celui de la Santé, pour expliquer les évolutions du protocole. Ça a du sens, dit un représentant enseignant, pour moins subir, mieux comprendre, pour une meilleure mise en œuvre. Mais il veut aussi que ça marche dans les 2 sens, que le ministère de la Santé réalise ce qui n'est pas faisable sur le terrain dans les écoles, prenne conscience des questions, des problèmes qui se posent concrètement ici et là. Bref, une vraie coopération avec également des réunions locales, mixtes, éducation, santé, qui doivent se mettre en place. Un changement de méthode que l'on jugera sur pièce, préviennent les organisations de personnel de l'éducation nationale.
Marie Guerrier, spécialiste éducation à RTL.
Le gouvernement a écouté les enseignants, il a peut-être pas autant écouté les parents, et les parents pourront nous appeler tout à l'heure au 3210.
RTL vous le révélait ce matin, depuis début janvier, on constate moins de bouchons sur les routes, vous en avez peut-être aperçu d'ailleurs, sans doute l'un des effets du renforcement du télétravail. Ça se vérifie en région parisienne, Christophe Bourroux, mais pas seulement.
Oui, car cette enquête porte sur 5 grandes agglomérations, outre Paris. Il y a aussi Lyon, Marseille, Lille et Rennes. Aujourd'hui, bonne nouvelle, puisque partout les temps de trajet se sont améliorés. 20 minutes de moins, par exemple, pour relier Aix-en-Provence à Marseille. Ainsi, les automobilistes sont restés 2 fois moins bloqués dans les bouchons en moyenne depuis début janvier, c'est-à-dire dès le renforcement du télétravail. Cela dit, attention au retour à la normale, à tel point qu'en septembre dernier, lorsque le télétravail s'était allégé, eh bien les bouchons avaient grimpé en flèche dans plusieurs villes, selon une enquête de TomTom, notamment Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulon et surtout Rennes, qui avait décroché le titre de la ville la plus embouteillée de France, avec plus de 18 heures perdues dans les bouchons par les automobilistes, soit 3 heures de plus qu'un an plus tôt.
Christophe Bourroux, dans l'actualité également, EDF qui dégringole en bourse, moins 23% tout à l'heure à l'ouverture. Là, on est à moins 16%. Bonjour Martial You.
Oui, bonjour.
Ce qui inquiète, c'est cette série de pannes sur les réacteurs.
Oui, ce qui inquiète ce matin, en fait, c'est un risque de coupure de courant pendant l'hiver. Hein, parce que ce matin, EDF a fait savoir qu'il ne serait pas en capacité de produire autant d'électricité que prévu, à peu près 10% de moins. Mais dans un système qui est déjà ultra tendu, mais c'est une baisse de capacité importante. Et au moment où on se parle, vous avez 10 réacteurs sur 56 qui sont arrêtés pour maintenance ou pour des raisons de sécurité avec de la corrosion constatée à la centrale de Penly, c'est pas rien. À Civaux et Chaux, on est en pause aussi. La situation est sans doute plus préoccupante qu'on ne pensait, avec les 4 plus gros réacteurs qui sont sans doute arrêtés jusqu'à l'automne prochain. Et il faut ajouter à ça, pour expliquer la chute en bourse de ce matin, le nouveau retard de l'EPR et les arbitrages hier du gouvernement pour plafonner la hausse de notre facture d'électricité à 4% cette année et qui va coûter 8 milliards à EDF.
Martial You, chef du service économie de RTL, en déplacement à Erquy dans les Côtes d'Armor. Marine Le Pen est justement revenue ce matin sur ce plafonnement de la hausse des prix à 4% décidé par le gouvernement. Une fausse bonne idée, dit la candidate du Rassemblement National.
Le gouvernement s'est engagé à maintenir à 4%. Vous savez combien ça va coûter ? 22 milliards. Donc la double peine pour les Français. Ils vont, par leurs impôts, payer pour maîtriser cette hausse d'électricité. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y aura une compensation qui se fera. Ça s'appelle le lissage. C'est un très joli nom pour un très méchant dispositif qui consiste à faire payer aux Français, en réalité, cette augmentation, mais qu'on lisse dans le temps. Donc, double peine. Ils l'auront payé par l'impôt et ils le paieront demain sur leur facture.
Marine Le Pen au micro RTL de Valentin Boissé.
Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, et on connaîtra le ou la gagnante dans 100 jours exactement.
Et comme on le fait régulièrement, RTL est retourné à Émerin. Vous savez, cette commune de la banlieue de Lille qui en 2017 a voté exactement comme la France. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Ça y est, les Émerinois s'intéressent à la campagne.
Oui, et ce qui est marquant, c'est ce malaise dont ils parlent tous. D'abord, face au débat politique jugé tendu, parfois irrespectueux. Par exemple, les habitants n'ont pas aimé du tout qu'Emmanuel Macron emmerde les non-vaccinés. Inquiétude aussi et surtout face à la violence générale dans le pays, notamment lorsque ce sont des élus qui sont visés.
J'étais dans les cuisines des CRS pendant 20 ans. Il n'y avait pas autant de violence dans les années 2000.
Un élu doit être protégé. Moi, je dis que c'est pas normal. Ça va crescendo et c'est très, très inquiétant.
Et puis, il y a les priorités de chacun. Et tous, sans exception, m'ont parlé de leur porte-monnaie.
J'ai dépensé 1300 euros de gasoil sur le mois de septembre.
17 kilowatts en plus au mois de décembre. Je me demande où c'est que je les ai pris. Parce que j'essaye de faire des économies, mais je les ai pris quand même.
Moi, ce qui m'importe plus, c'est mon compte en banque. Hein.
Pouvoir d'achat, mais aussi services publics, sécurité ou écologie. Et pourtant, personne n'a encore arrêté son choix.
Peut-être Marine Le Pen, ou avant, il y avait Jean-Luc Mélenchon.
Il y en a trop.
Il y a trop de candidats.
Ouais.
Pour l'instant, je ne sais pas du tout pour qui je vais voter.
Je suis indécise.
Le casting de la présidentielle est pourtant connu, mais les Emerinois, eux, se laissent encore quelques semaines pour choisir.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Au Royaume-Uni, ça se complique encore un peu plus pour Boris Johnson. La presse britannique fait état de deux nouvelles fêtes organisées chez lui au 10 Downing Street, la veille des funérailles du prince Philippe. Bonjour Marie Billon. Est-ce que ce sont les fêtes de trop ?
Écoutez, depuis le début de ces scandales, Boris Johnson est comparé à la reine. Hein, lui qui semble ne pas suivre ses propres règles et elle qui les respecte à la lettre. On se souvient bien sûr de cette image poignante d'Elisabeth II assise toute seule devant le cercueil de son époux dans la chapelle de Windsor. Eh bien, on apprend donc que la veille de l'enterrement du prince Philippe, alors que le pays était non seulement en deuil national, mais aussi en confinement, les rassemblements en intérieur étaient interdits, eh bien, une quarantaine d'employés de Downing Street ont dansé, entraînés par les platines d'un DJ au sous-sol et ont envoyé un collègue acheter de l'alcool avec une valise pour y mettre plein de bouteilles en toute discrétion. Alors Boris Johnson n'était pas à Downing Street ce jour-là, mais on sait qu'il a été à une fête qui s'est tenue un mois plus tard en mai. Il est de toute façon éclaboussé par ces festivités qui se sont tenues chez lui. Ces prochains jours vont être cruciaux pour son avenir, car de plus en plus de ses députés parlent ouvertement de le renverser.
Marie Billon en direct de Londres pour RTL. Du foot ce soir, début de la 21e journée de Ligue 1. Nice, le Dauphin reçoit Nantes. Coup d'envoi du match à 21h. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL. RTL Foot commence dès 20h. Et puis on vous parlait de ce feuilleton Djokovic, cette audience qui a eu lieu tout à l'heure après la suspension à nouveau de son visa. Et bien à l'instant, on apprend que le gouvernement australien compte placer Novak Djokovic en rétention samedi matin, donc demain, enfin dans quelques heures avec le décalage horaire, c'est-à-dire retour finalement là où il a passé plusieurs jours en attendant que ce soit statué sur son sort. On n'a pas fini d'en parler.
Épisode effectivement à suivre. Dans un instant, le harcèlement en ligne, c'est l'un des combats de Brigitte Macron. À tout de suite.
RTL. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. D'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère.
Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître
moi,
des informations.
Moi, j'ai mis 5 jours et demi pour...
5-6 jours, vous, Madame
oui,
Macron.
5 jours et demi, je crois. J'ai mis. Alors, vous imaginez, avec un avocat qui est rompu à l'exercice.
C'était ce matin sur RTL. Brigitte Macron évoquait ce harcèlement en ligne dont elle a été victime, ces rumeurs assurant qu'elle était un homme. Les propos ont été supprimés en moins d'une semaine. 5-6 jours, vous venez de l'entendre, mais pour beaucoup, le cauchemar dure bien plus longtemps. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
On est d'accord, 5 jours et demi, c'est très rapide?
Oui, absolument. Il est fréquent que certains tweets ne disparaissent jamais ou seulement au bout de plusieurs semaines, alors qu'ils ont été signalés à la plateforme par des utilisateurs. Mais Twitter n'est pas toujours très prompt à les retirer. Pourtant, une fois reçu le signalement d'un contenu raciste, homophobe ou bien injurieux ou haineux, la plateforme doit le supprimer. Écoutez Maître Stéphane Lilti, il est avocat spécialisé en cyberharcèlement.
Ils doivent simplement aller voir les tweets qu'on leur signale et adresser une réponse indiquant les mesures qui ont été ou qui seront prises. Il faut savoir que Twitter, en qualité de fournisseur d'hébergement, a une obligation légale qui est celle de retirer promptement tout ce qui paraît manifestement illicite. Il peut y avoir des choses un petit peu compliquées à apprécier, mais on ne peut pas... Si vous voulez maintenir en ligne une injure antisémite, homophobe ou raciste pendant plus d'un mois, deux mois, trois mois, comme on le voit aujourd'hui couramment.
Ça dépend aussi sans doute de la nature du harcèlement.
Oui, et pour bien comprendre, il faut savoir que dans un premier temps, après un signalement, ce sont des robots, des algorithmes qui vont traiter la demande grâce à des filtres qui suppriment des messages en fonction des mots ou des combinaisons de mots.
Ces robots robots sont paramétrés sous l'égide de la législation américaine et du premier amendement, qui veut dire que si vous signalez un contenu à caractère terroriste, nos amis américains étant très sensibilisés à cette question, vous avez des chances d'obtenir une réponse et ils auraient plus de chances de faire retirer un contenu à caractère pédophile ou pornographique que de faire retirer un contenu raciste qui tombe sous le coup du premier amendement de la Constitution américaine qui organise une liberté d'expression échevelée.
Alors il y a d'autres messages qui sont signalés et qui ne sont pas supprimés automatiquement. Eux sont étudiés par des humains. Le modérateur va regarder si le message contrevient aux règles de Twitter, hein, violence, insulte, haine. Mais parfois, le message est blessant, diffamatoire, sans qu'il y soit fait mention, ni d'insulte, ni de menace. Il faut donc interpréter, remettre le tweet dans son contexte, donc connaître la langue et la culture du pays. Or, Twitter a moins de 2000 modérateurs dans le monde et tous ne parlent pas français, ce qui explique pourquoi certains tweets ne sont pas supprimés.
Bon, et très concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, Sophie, quand on est victime ?
Alors, malheureusement, on est vite démuni devant la machine Twitter. En dehors des signalements directement sur la plateforme, il reste la possibilité de porter plainte, notamment via le site Pharos, qui regroupe plusieurs services de police et de lutte contre la cybercriminalité. C'est eux qui prendront contact avec Twitter. Ou bien vous pouvez mettre l'affaire entre les mains d'un avocat, ce qui n'est pas à la portée de chacun.
Merci. Merci beaucoup, Sophie.
Merci, Sophie Josselin. Est-ce que Brigitte Macron a envie de rester encore 5 ans à l'Élysée ? La question lui a été posée ce matin par Alba Ventura. On va répondre à cette question, tenter en tout cas de répondre à cette question avec Benjamin Sportouche qui va essayer de décrypter la parole de Brigitte Macron. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Brigitte Macron, vous vous voyez 5 ans de plus à l'Élysée ?
Alors, je n'ai pas cette capacité à me projeter. Je suis très pascalienne, rien n'existe que le présent. Et j'essaie de m'adapter sans arrêt à un présent qui, avec le mari que j'ai, a tendance à se renouveler et à changer rapidement. Mais il en a très envie, mais la décision n'est pas encore prise. Donc j'apprendrai, je lui ai dit, cette décision, tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres.
Mais il vous demandera votre avis quand même. Hein.
Je lui ai demandé de ne pas me le demander.
Je lui ai demandé de ne pas me demander mon avis. Les propos de Brigitte Macron ce matin sur RTL concernant une éventuelle candidature de son mari. Alors comment les interpréter ces propos ? Brigitte Macron freine-t-elle sur la question ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi avec nous. Benjamin Sportouche, bonjour, chef du service politique de RTL. Et Olivier Faye, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste au service politique du Monde et vous avez récemment réalisé une grande enquête justement sur Brigitte Macron. Je me tourne vers vous d'abord, Olivier Faye. Comment vous interprétez-vous ces propos qu'on vient d'entendre ? On a l'impression qu'elle dit, si ça ne tenait qu'à moi, eh ben, peut-être qu'il ne se représenterait pas.
Oui, parce qu'en fait, Brigitte Macron ne peut pas se permettre d'agir comme si elle était une femme politique. Elle a un rôle, on va dire, presque métapolitique, on va dire. Elle a une conception de sa place comme étant, voilà, moi je suis pas une femme politique, c'est mon mari qui est élu, donc je ne peux pas me permettre de m'engager sur le terrain électoral de la sorte. Mais la vérité, c'est que c'est assez difficile à croire parce que.
Mais quand elle dit, je lui ai demandé de ne pas me demander mon avis, ça fait. Certains se disent, parce que j'aurais répondu, non, on n'y va pas. Non ?
Oui, alors, il y a effectivement une part de violence qu'elle a à subir dans la vie depuis que son mari est dans la vie politique et c'est effectivement très dur pour elle. Et c'est évident qu'elle préférait sans doute avoir une vie, on va dire, plus posée. Mais dans le même temps, c'est aussi une femme politique assez rouée finalement, qui est assez ambitieuse pour son mari. Et ça semble assez difficile à croire, surtout sachant qu'ils échangent beaucoup avec Emmanuel Macron et évidemment pas que de leur famille, mais aussi beaucoup de politiques.
Il y a une part de communication et disons le même de jeu et même de la part de Alba Ventura ont faim de croire que Brigitte Macron ne sait pas si son mari va se présenter ou pas. La vérité, c'est qu'elle le sait, Benjamin Sportouche.
Oui, j'imagine qu'en effet, elle ne passe pas uniquement par les médias pour savoir ce que son mari pense, puisqu'elle dit « j'ai cru voir qu'il en avait envie ». J'imagine qu'elle le ressent, mais c'est vrai qu'entre eux, visiblement... Il lui disait, c'est très intuitif. C'est vrai que c'est un couple très fusionnel. Hein. Et en même temps, finalement, ce qu'elle dit, c'est peut-être pas aussi bien formulé que ce que disait Carla Bruni, que j'ai retrouvée en 2017 à propos de son mari Nicolas Sarkozy. En tant que femme, je ne souhaite pas qu'il soit président, mais en tant que citoyenne française, oui, je le souhaite. C'est vrai qu'on lit à peu près la même chose. Le quotidien d'une première dame, c'est pas évident. C'est vrai que c'était une femme qui était totalement anonyme. Elle n'est pas dans la vie politique. On la connaît que quand son mari a émergé. Donc c'est vrai qu'elle rentre dans le bain subitement. Tout de même, j'amende un peu ce que je viens de dire. Elle était au ministère de l'économie, déjà très proche d'Emmanuel Macron. On disait déjà qu'elle participait à des réunions importantes.
Alors, Olivier Faye, vous disiez qu'elle joue quand même, bien sûr, un rôle politique. On sait notamment qu'elle a pas mal contribué à l'idée de ne pas fermer les écoles. D'ailleurs, c'est très drôle, ce matin, dans l'interview, elle dit « nous n'avons pas fermé les écoles ». Et quand elle dit « nous », c'est pas nous les Français. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas entendu comme ça. Olivier Faye, elle a un vrai poids, quand même, au quotidien.
Elle a un vrai poids. Et, en fait, Brigitte Macron et Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, sont les deux personnes avec lesquelles Emmanuel Macron échange le plus et qui ont sans doute le plus d'influence sur ce qu'il peut décider au quotidien. Et c'est Brigitte Macron, en tant qu'ancienne professeure, quelque part, elle veut apparaître un peu comme la professeure de tous les Français. Et c'est très important pour elle, effectivement, cette question des écoles, comme la question des hôpitaux. Et ça permet, on va dire, Emmanuel Macron d'afficher une image d'empathie à travers sa femme. En tout cas, elle affiche une empathie que certains adversaires d'Emmanuel Macron dénient au président de la République. Donc, ce qui fait qu'elle a un rôle de conseillère à la fois, mais aussi un rôle public qui est très important pour le chef de l'État.
Bon, chacun essaye toujours de percer et les mystères d'un couple et les mystères d'un homme. Il y a une autre tendance, moi, que j'entends parfois, c'est qu'Emmanuel Macron écoute tout le monde, mais qu'au fond, personne n'a une influence sur lui, y compris son épouse.
Ouais, en tous les cas, c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'écoute personne, mais il a un cercle très rapproché.
Non, je dis qu'il écoute tout le monde, mais personne n'a d'influence sur lui, ce qui est un poil différent.
Son directeur de cabinet colère est quand même... Il a dit lui-même, c'est mon deuxième cerveau, donc c'est pas rien. Et Brigitte Macron, c'est évident, il le dit lui-même. Je l'écoute beaucoup, on peut imaginer quand même que sur l'école notamment, puisqu'elle-même est prof, il l'entend, il l'écoute, il dit que c'est un capteur, notamment, vous savez sur quoi? Sur le courrier énorme qu'elle reçoit. Il dit, oui, je souhaite qu'elle soit ce capteur-là. C'est vrai qu'il peut, on critique beaucoup ce président sur le fait qu'il peut être déconnecté. Alors il cherche des points de connexion, il estime que peut en être un. Pas forcément non plus le meilleur, parce que bien évidemment qu'elle habite aussi à l'Élysée. Hein, elle n'est pas non plus dans le quotidien des Français,
acheter
la baguette au coin de la rue.
Elle a évoqué certains aspects de cette vie à l'Élysée avec lesquels elle a du mal tout à l'heure au micro d'Alba Ventura. Écoutez.
Oui, j'ai un regret. J'ai un regret, c'est de ne consacrer assez de temps à mes amis, à mes proches, et de dire aussi à mes amis, ne dites pas que vous êtes amis avec moi, ne dites pas, parce que j'ai le sentiment de nuire aux gens que j'aime. Parce qu'ils sont proches de nous, on peut leur faire du mal. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ça, je l'ai compris. C'est-à-dire, jamais je ferai une sortie d'école. Je suis toujours allée chercher mes petits-enfants à l'école, mais là, c'est impossible. C'est complètement anecdotique et pour tout le monde, parce que chacun a ses propres souffrances et je n'ai pas à en faire état. Mais c'est de m'excuser auprès de mes proches de ce que je ne leur donne pas.
Olivier Faye, une réaction hein?
Oui, bah c'est sûr que c'est très compliqué. La politique, c'est quelque chose qui est radioactif. Surtout quand on est à l'Élysée, on est scruté, analysé en permanence. Et donc, c'est très compliqué à la fois pour soi, même à titre personnel, mais aussi pour ses proches, son entourage, parce que y a forcément la presse qui s'intéresse aux gens avec lesquels le couple présidentiel peut échanger. Donc, ça les place tous dans une situation très compliquée. Après, Brigitte Macron, c'est aussi une excellente communicante. Très souvent, elle va dire un peu cornaquer la communication de son mari en lui disant de faire attention justement à ses petites phrases, faire attention à afficher une image d'empathie. Et quand elle nous dit ça aussi, c'est justement pour montrer, nous sommes un peu aussi des Français comme tout le monde, finalement, qui avons aussi, nous aussi, nous sommes normaux, quelque part. Quoi.
Bon, en tout cas, on pourra interroger les auditeurs. Est-ce qu'ils sont sensibles à la présence de Brigitte Macron? Est-ce que pour eux, ça pèse, la présence de Brigitte Macron? Est-ce qu'ils vont se déterminer, pourquoi pas, en fonction de Brigitte Macron? Ou est-ce qu'ils y voient des grosses ficelles de communication? Parce que c'est vrai qu'elle est très présente aujourd'hui dans les médias, alors que la campagne présidentielle commence. C'est des questions qu'on va se poser dans 15 instants. Bravo pour vos résultats, cher ami.
Merci.
Du grand jury RTL. Dimanche, vous recevez qui?
Yannick Jadot.
Yannick Jadot, bien écoutez.
Présidentiel, vous écouterez.
Mais évidemment, ça sera une journée verte. Et bravo pour 12h-13h chaque dimanche. Et vous êtes en forte augmentation.
Merci aux auditeurs.
Bon, en même temps, c'est normal, c'est une année présidentielle.
J'allais dire, c'est normal, vous êtes très bon.
Il est 12h58. Il est 12h58. À tout de suite.
RTL.
Il est 13h pile.
Nous sommes avec
les auditeurs ont la parole.